Madame la procureure de Bobigny, Fabienne Klein-Donati est notre invitée, Aléa Salamé et à moi-même. Vos questions au 01 45 24 7000. Je salue Denis de Beauvais au standard de France Inter. Soyez le bienvenu donc et vous avez la parole.
Oui, bonjour, de prendre la question. Alors, les moyens humains et financiers manquent pour assurer des délais raisonnables. Les justiciables comme les professionnels de la justice sont en droit d'exiger un effort sans précédent du gouvernement, alors que celui-ci s'apprête à supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires. Est-ce bien cohérent? Et pour terminer, il me semble que la prévention est la grande oubliée dans cette affaire, car garantir la protection judiciaire de la jeunesse, la justice des mineurs, ainsi que la politique des préventions de la délinquance et les sanctions éducatives seraient quand même tout à fait bienvenues en termes de prévention.
Bien compris.
Ça manque cruellement justement dans la politique judiciaire.
Bien compris, Denis. Je vais donner la parole à Jean-François sur le thème de la protection judiciaire de la jeunesse également. Bonjour et bienvenue à l'antenne d'Inter. Ah ben on n'a pas Jean-François.
Allô?
Oui, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, vous avez la parole.
Bon, ma remarque va dans le même sens. Je voulais rappeler l'indigence des propositions en matière de justice de tous les candidats, sans exception à l'occasion de la dernière élection présidentielle, et rappeler que l'action de la justice, pas seulement celle de la justice des mineurs, c'est un pacte avec les citoyens, c'est-à-dire que les réponses, le sens des réponses apportées par les magistrats, est absolument décisif dans la confiance que les citoyens entretiennent avec les institutions. Or, la qualité des décisions rendues la plupart du temps avec des audiences très tardives, des baisses de qualité, quelle que soit la bonne volonté des professionnels, fait que parfois le message de la justice n'est pas audible. J'entendais tout à l'heure Madame la procureure qui disait que certaines décisions sont rendues approximatives par le nombre en fait. De situation. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser deux questions. Est-ce que réellement on peut retrouver une confiance, les citoyens, dans l'institution judiciaire et d'autres institutions régaliennes telles que la santé et la culture? Et d'autre part, il ne faut pas oublier que les citoyens, y compris notamment les jeunes, seront les citoyens de demain, c'est-à-dire qu'ils auront des enfants. Donc, la perception de l'édifice social et la cohérence des réponses est absolument décisive. Voilà.
Merci Jean-François pour cette intervention. Je la livre ainsi que celle de Denis à Fabienne Klein-Donati.
Je pense que il faut pas non plus dresser un tableau aussi noir sur le fonctionnement de la justice. Moi, j'ai pas un discours misérabiliste, pas du tout. Je dirais effectivement, il faut que la justice évolue dans ses moyens, dans ses modes d'organisation, dans sa façon de traiter les affaires, dans ses procédures. Bon, on a besoin bien sûr du législateur. Il y a tous des chantiers là qui ont été lancés par la ministre, auxquels d'ailleurs tous les magistrats et fonctionnaires ont participé. Donc voilà, on a fait des propositions.
Et vous seriez aujourd'hui, vous seriez ministre de la Justice aujourd'hui. C'est compliqué. Mais qu'est-ce que vous feriez? Quelles sont les deux, trois mesures que vous prendriez pour Bobigny? Pour Bobigny, ce tribunal qui gère donc le département le plus criminogène, vous nous l'avez expliqué, de la métropole en tout cas.
Ben, à la fois, je renforcerai ses moyens humains. Donc, ce qui est en cours là, puisque effectivement des réflexions au ministère de la Justice pour accompagner et soutenir la juridiction sont en cours.
Ça veut dire combien de magistrats en plus?
Ce qu'il nous faudrait.
Dans l'idéal.
Dans l'idéal, il faudrait qu'on ait 20 magistrats du siège supplémentaire et 4-5 magistrats du parquet supplémentaire. Mais surtout, parce qu'il faut qu'un canard il avance sur ses deux pattes, il faut aussi que le greffe suive, c'est-à-dire les fonctionnaires et les greffiers suivent. Donc là, il faudrait pareil, quarantaine de fonctionnaires. Voilà, ça ce sont les moyens. Mais aujourd'hui, très clairement, moi je suis consciente que ces moyens, le ministre de la Justice ne peut pas les mettre tout de suite là sur la table. En tout cas, il va le faire progressivement. Ceci étant, si on est soutenu et aidé de cette façon-là, nous aussi on réfléchit à nos propres organisations et à la façon de faire mieux. Alors des fois c'est faire mieux avec moins ou pas assez, mais on réfléchit à ça. Et je suis pas
là,
tout à fait...
Où est-ce que vous pêchez?
Où est-ce qu'on pêche? Oui. C'est à gérer la masse. Voilà. C'est à gérer la masse. Le volume est, vous êtes jamais venu dans cette juridiction, mais le volume est assez impressionnant. C'est symptomatique. Mais je dis pas qu'il y a que Bobigny, Bobigny est symptomatique d'une situation, qui peut se retrouver ailleurs dans d'autres juridictions. Je parle pas que de Bobigny.
On retourne au standard. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Et bienvenue.
Bonjour, madame la procureure. Bonjour, monsieur Demorand.
Bonjour.
Est-ce qu'il ne serait pas temps de se poser la question de la dépénalisation du cannabis. Le trafic de cannabis, je dis bien le trafic et non pas la consommation, pourrit nos quartiers. La poursuite de ce trafic consomme des moyens considérables en police et en justice. Or, le cannabis, combien de morts par an ? L'alcool, combien de morts par an ? Le tabac, combien de morts par an ? Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui en France dans une situation analogue à celle des États-Unis dans les années 20 par rapport à la prohibition de l'alcool, avec une alliance de la tartufferie et du puritanisme qui empêche de prendre la décision logique ? Je précise pour terminer que je ne suis pas consommateur de cannabis.
Merci François pour cette question, Madame la procureure.
C'est pas à moi à traiter la question de la dépénalisation.
Mais
c'est
de là où vous êtes.
Par contre, c'est à moi effectivement, voilà, à législation constante, à faire en sorte effectivement que le plus grave soit traité. Et aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, très clairement, on traite prioritairement les trafiquants. Et les trafiquants qui nuisent à la vie quotidienne des gens, et pas seulement par le biais de trafiquer et de vendre, mais c'est aussi parce que ce que ça représente en termes d'organisation du commerce. Hein.
Mais l'analyse de François ressemble à une martingale. Dès lors que vous dépénalisez, vous cassez le trafic, tout devient légal et les policiers et la justice peuvent faire autre chose. Sur ce raisonnement-là, comment le recevez-vous ?
Je trouve qu'il est trop raccourci, parce qu'il faudra bien de toute façon trouver le moyen, voilà, si on imaginait une situation de dépénalisation, il faudra bien trouver le moyen de distribuer le cannabis.
Ça existe ailleurs.
Oui, ça existe ailleurs, mais est-ce que ça empêche les trafics ? Est-ce qu'on aura toujours des personnes qui essayeront de vendre moins cher que ce qui sera vendu légalement ?
Point d'interrogation, Léa Salamé.
Je voulais vous faire réagir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. La procureure de Besançon, la procureure chargée de l'affaire Alexia Daval, s'est insurgée contre la folie médiatique qui a entouré l'affaire. Elle dénonce les atteintes à la présomption d'innocence, les atteintes au secret de l'instruction. Elle met en cause pêle-mêle les médias, les avocats, les ministres qui se sont succédés à la télévision pour parler d'une affaire qui est en cours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en garde ?
La médiatisation, elle peut se comprendre parce que le citoyen, il a besoin d'être informé. Après, il y a des mesures qui protègent les enquêtes en cours et qu'il faut pouvoir respecter. Et si on les respecte, c'est aussi pour les personnes qui sont mises en cause, mais aussi et surtout pour que la justice se déroule de façon sereine. Et si on peut donner une information, le procureur de la République est capable, hein, est autorisé à donner un certain nombre de faits objectifs sans que ça traduise, bien sûr, et que ça compromette le secret de l'instruction. Et il faut pouvoir résister à cette demande d'information pour justement protéger les enquêtes et protéger les personnes qui sont mises en cause. C'est important. Parler trop vite et s'exprimer trop et faire partir comme ça une affaire de façon médiatique, c'est dangereux. C'est très dangereux à la fois pour les personnes, mais aussi pour ceux qui s'avancent. Parce que imaginez que l'enquête, on part sur une voie, sur une piste, on embarque le citoyen, enfin, je veux dire, France entière sur une piste, et puis derrière, c'est pas du tout celle-ci.
C'est un de vos défis de résister à la tentation médiatique ?
Oui, c'est un des défis, mais en même temps, il faut communiquer. Je dis qu'il faut communiquer, il ne faut pas refuser de communiquer. Justement pour essayer de rétablir des faits objectifs, audibles et qu'on peut aussi dissibles.
Et quand vous avez entendu la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui a pris la parole, qui a dénoncé la défense de l'avocat de Jonathan Daval, qui expliquait le meurtre de sa femme par la personnalité écrasante d'Alexia, est-ce que ça vous a choqué qu'elle intervienne alors que l'instruction est en cours ou au fond elle a bien fait ?
Moi, personnellement, ça me choque. Ça me choque parce que c'est s'avancer sur ce qui peut être dit d'une affaire et de ce qu'elle pourra donner après.
On retourne au standard. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Madame la procureure,
bonjour.
J'ai une question particulièrement importante qui, moi, la démocratie, le fondement de notre démocratie. Pourquoi en France est-on un des derniers pays à nommer les procureurs de la République par le pouvoir ? Et comment pensez-vous être objectif lorsque vous parlez de la justice alors que c'est le pouvoir politique qui vous a nommé ? Moi, j'estime que le citoyen devrait vous élire et on devrait pouvoir vous entendre plus souvent. Je suis très heureux que France Inter nous donne l'occasion enfin de parler à ces procureurs qui nous poursuivent et qui appliquent la justice. Il serait quand même de bonne aloi que le citoyen et le droit de vous élire. Moi, je trouve complètement anormal et complètement scandaleux que vous soyez nommé. Voilà. C'est ma question pour vous.
Philippe, j'espère que vous ne nous appelez pas tout en conduisant.
Ça va pas bien.
Actuellement, non, pourquoi ?
Ah, on entend plus la voiture, d'ailleurs.
Sinon, vous auriez été poursuivi à juste titre, puisque c'est interdit. Mais si ça n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Merci en tout cas d'être intervenu. Fabienne Klein-Donati vous répond.
Le statut des procureurs est une question. C'est une question qui traverse le politique et l'institution judiciaire. Voilà, disons-le depuis au minimum 20 ans. Alors il y a au minimum une chose qui pourrait effectivement rendre le parquet vraiment indépendant et puis éviter dénonciation d'une partialité apparente. Voilà, c'est ça la question. Je veux dire, c'est effectivement comment les magistrats du parquet soient nommés et proposés par le garde des Sceaux. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté, mais que ce soit sur un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Puisqu'aujourd'hui, cet avis conforme même, il n'existe pas dans les textes. Ça permettrait encore aujourd'hui au Conseil supérieur de la magistrature de donner un avis défavorable, mais au ministre de passer outre cet avis défavorable. Ils ne le font plus depuis un certain nombre d'années, fort heureusement, mais on l'inscrirait dans le marbre. Ça serait pas plus mal. Ceci étant, pour rassurer cet auditeur, je veux dire, on a quand même des garanties. Je veux dire, la parole du ministère public à l'audience est libre. Je veux dire, on peut dire librement ce qu'on pense d'une affaire. Et puis, on est garanti aussi par la loi de 2013, qui fait qu'on ne peut plus avoir d'instruction individuelle. Donc voilà, on a quand même quelques garanties déjà.
Retour au standard, Roger, vous avez la parole. Bienvenue.
Oui, bonjour. J'habite précisément à Sevran, dans le 93, et tous les jours, mes petits-enfants allant au collège, passent devant un point de vente de stupéfiants. Ça dure depuis plusieurs années, et visiblement, les pouvoirs publics, pour le moins, ne sont pas très efficaces. Alors, je vous pose la question de savoir s'il n'y a pas une volonté au plus haut niveau de maintenir ce genre de commerce ou de trafic, peu importe, pour maintenir du revenu dans une partie importante de la population qui, sans cela, certainement aurait des actions plus défavorables vis-à-vis des habitants, des travailleurs à côté, c'est-à-dire visite de pavillons, etc. Alors, je me demande s'il n'y a pas une volonté d'acheter la paix sociale, en quelque sorte, par des activités au vu et au sud de tout le monde.
Et c'est vous qui payez la facture de ce que vous imaginez être la paix sociale, c'est ça ?
Du moins, ce sont les orientations politiques du moment, et depuis longtemps, c'est pas qui permettent ce genre de situation qui perdure et au détriment des citoyens qui jouent le jeu.
Merci Roger pour cette question que je transmets évidemment à Fabienne Klein-Donati.
Oui, je sais que ça traverse beaucoup les discussions dans toutes les réunions et dans tous les déplacements que je fais sur ce département, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi efficace ? Est-ce que ça n'arrange pas effectivement tout le monde de voir que une certaine partie de la population en Seine-Saint-Denis vit grâce à ce trafic de stupéfiants ? C'est une réalité. Je veux dire, ça, faut pas le contester. C'est vrai que grâce à ce trafic, il y a des familles qui mangent, qui sont logées, qui sont habillées. C'est la réalité. Ceci étant, quand on regarde la situation de la population en Seine-Saint-Denis, c'est quand même, tout est en dessous du seuil de pauvreté. Je veux dire, c'est un département qui est très pauvre, où la population est très pauvre. C'est 1 600 000 habitants sur les plus 200 000 clandestins quand même, des personnes qui sont d'origine. Il y a 170 nationalités sur le département de Seine-Saint-Denis. Alors, il y a plus grosses communautés, mais la France, le monde entier est représenté en Seine-Saint-Denis. On est tout au-dessus des seuils du niveau national. Je veux dire, au niveau de la CMU complémentaire, on est le double du pourcentage du niveau national. Le taux de chômage, on est largement au-dessus. La population, c'est 30% de la population qui a moins de 20 ans. Voilà, c'est un département qui a ces caractéristiques-là. Mmh. Alors effectivement, le trafic de stupéfiants, il s'implante, il produit, il nourrit, il loge. Mais est-ce que pour autant, il faut en tirer la conclusion que c'est voulu ? Bien sûr que non. Je veux dire, puisqu'on mettrait pas quand même, malgré tout, un certain nombre de moyens pour lutter contre ces trafics. Ils sont quand même là, les moyens, mais pas suffisants, mais ils sont là.
Restez avec nous, madame la procureure. Maître Vizorek à la parole dans quelques instants.